Cet épisode est rendu possible par Futurepreneur. Futurepreneur, c'est un organisme qui accompagne depuis plus de 25 ans les jeunes entrepreneurs de 18 à 39 ans à travers le Canada. Il offre du financement sous forme de prêts au démarrage d'entreprise, ainsi que le maillage à un mentor. L'an dernier, Futurepreneur a lancé une offre pour répondre aux enjeux spécifiques vécus par les jeunes entrepreneurs noirs au Canada. Ce programme a déjà accompagné plus de 200 d'entre eux à travers le pays et veut en aider davantage. Pour plus d'informations, rendez-vous sur futurepreneur.ca. Le lien est en description de l'épisode. Merci à Futurepreneur de soutenir la zone. Bienvenue, vous entrez dans la zone, le podcast qui part à la rencontre de femmes créatives et inspirantes. Une semaine sur deux, une artiste, une entrepreneuse, une actrice de changement se raconte. On parle de son parcours, de ce qui l'anime, de sa zone de génie. On parle de son rapport à elle-même, au monde et aux autres. Aujourd'hui à mon micro, Dorothy.
Notre création est façonnée par notre environnement. Étant donné que je suis confrontée à toujours me rappeler que je suis une femme noire, oui, dans tout ce que je veux faire, on va le ressentir.
Vous vous apprêtez à écouter la deuxième partie de mon entretien avec Dorothy. Alors qu'on était en train de discuter des débuts d'Audace au féminin, on a dû changer d'endroit pour enregistrer ailleurs, car il y avait une réunion dans la pièce à côté. Des femmes noires, justement, en pleine rencontre, riaient à gorge déployée. On pouvait sentir tout l'enthousiasme, l'énergie et la joie qui émanait de leur voix. C'était plaisant, réconfortant, comme si elles mimaient l'énergie de ma conversation avec Dorothy, ou que l'on mimait la leur. On a parlé de la place des hommes de notre communauté dans le soutien à apporter aux femmes noires, des mots que l'on emploie pour déconstruire, de créativité, de nos idéaux de beauté non sans bien en rire, d'amour aussi, et de moments de grâce. Si vous aimez notre conversation, abonnez-vous au podcast, laissez une note et un avis sur Apple ou Spotify. La Zone, c'est aussi une newsletter mensuelle dans laquelle je partage mes réflexions de femmes ordinaires et créatives sous la forme d'un journal intime adressé directement à vous. Si vous aimez les histoires et l'introspection, que vous vous posez mille et une questions sur la création, je vous invite à vous y inscrire, le lien est en description. Allez, place à l'épisode. Est-ce que les personnes qui donc ont monté ce projet-là avec toi, elles t'ont suivi tout de suite?
Oui, oui, quand même, hein? Elles sont folles, mais... mais oui, elles ont tout de suite embarqué. Je pense à Joëline Jean-Claude, je pense à Catherine Kamchwang. D'ailleurs, il y a deux semaines, j'ai reçu un prix de reconnaissance au Gala Moali. Et j'ai eu droit à un bel hommage de la part de mes deux acolytes.
Félicitations.
Ben, merci beaucoup. Et à ma grande surprise, elles ont fait une bonne description de qui je suis, mais elles ont embarqué, puis elles m'ont souvent dit, elles me suivent, c'est surtout aussi pour la vision. Puis, ouais, je suis quand même audacieuse dans ma vision, et puis vers où... la femme noire doit être, c'est aussi bizarre que ça puisse l'être, mais il y a quand l'idée du salon est arrivée, c'était en 2016, décembre 2016, juste femme noire, on ne l'utilisait pas ici au Québec.
Ah oui.
Non.
En 2016.
En 2016. Rares étaient les événements où rares sont les gens qui s'appropriaient de cette identité-là de femme noire. Des femmes noires qui occupaient l'espace public ne s'identifiaient pas comme femmes noires.
Elles s'identifiaient comment alors?
Femmes de la diversité, femmes du monde, toutes sortes de femmes, jamais femmes noires. Exact. Mais au moment où on a décidé de dire non, le salon va s'appeler salon de la femme noire, même à l'intérieur des communautés noires, les gens n'étaient pas tellement d'accord. Ils nous disaient, mais pourquoi vous appelez le salon de la femme noire? Je dis, oui, parce qu'on se réapproprie de notre identité, de nos réalités, de nos besoins. Mm. On veut se faire voir, on veut se faire entendre. Mm. On existe.
Mais si c'est un terme, justement, qui était pas ou peu utilisé au Québec jusqu'à ce que vous imposiez le Salon international de la femme noire, mm-hmm. comment t'as fait? Et puis, tu sais, la première édition, c'était à la Place Bonaventure, ça oui. coûte de l'argent.
Oui, tout à fait. Encore une fois, ma chère.
Je suis en train de faire un événement à Los Gang Plaza, ça n'a rien à voir et c'est déjà très cher.
Ma chère, ça c'est comment dire, bon chez nous, en bon créole, là, c'est grâce bon Dieu, oui. Mm. C'est la grâce du ciel.
Mais justement, je me demandais alors, étant donné que c'est un terme fort, qu'on l'entendait même pas au sein même des communautés noires, mm. comment vous êtes allé convaincre des commanditaires, des investisseurs, de payer, en fait, pour cet événement-là?
Très sincèrement, la première édition, je pense à chaque édition, on a toujours agi avec foi. Très simplement. Maintenant, la première édition, en 2018, lorsqu'on frappait aux portes de certaines corporations, les gens étaient pas tellement enclins à supporter un événement de la femme noire parce qu'ils disaient, ça fait pas, les gens avaient l'audace de nous dire, en fait, ils étaient, comment je peux dire ça?
C'était inclusif.
Exact! Ou ils disaient, ben, c'est pas vraiment de la diversité. Je suis comme, mais comment c'est pas de la diversité? Je comprends pas. Donc les gens voulaient pas tellement, le milieu corporatif voulait pas tellement s'associer au Salon international de la femme noire. Donc, pour la première année, je dirais que on a eu beaucoup plus de dons. Mm. C'est ça qui nous a permis. Et aussi, ce qui nous a aidé, c'était quelques entrepreneurs issus des communautés noires qui nous ont fait, à l'époque, là, des commandites à hauteur de 1 000 $. 1 000. On a commencé avec ça. Aujourd'hui, 1 000 $, ça, surtout au Grand Quai, au Vieux Port, c'est pas grand chose.
Ah non, c'est rien.
C'est à peine une bannière devant l'entrée. Donc, ça a beaucoup changé depuis. Donc, et la deuxième année, on a décidé de bouger au Groquet, encore une fois avec foi, c'était 3 fois le prix de la place Bonaventure. On ne savait pas comment on allait faire. Mm. Mais on est allé chercher des commandites. Puis encore une fois, je pense qu'on avait un seul commanditaire qui nous avait fait un... commandite de 5 000, mais après ça, tout le reste était au moins 2 000. Mais on en avait un petit peu plus. Mais plus de corporations, par contre. Là, ils ont commencé à embrasser le mouvement, mais surtout, quand on les a invités au salon, ils sont restés bouche bée. Puis à l'époque, on le faisait au pavillon du Grand Quai, donc en haut. Donc les gens sont restés bouche bée, évidemment... étonné, impressionné par l'organisation, par la beauté des exposants, par le professionnalisme, par la qualité de la programmation et des intervenants. Donc, les gens ont embrassé le mouvement. Puis nous, on a toujours dit que c'est un mouvement inclusif qu'on faisait. Le salon, c'est plus qu'un événement, c'est un mouvement inclusif. Mmh. On a toujours talonné ce message-là.
Oui, c'est pour ça qu'il n'y a pas que des femmes noires qui y assistent et il n'y a pas que des femmes d'ailleurs aussi.
Il y a
des hommes sur des panels, oui. Mais toujours en ayant en tête le sujet de la promotion des femmes noires.
Tout à fait. C'est la femme noire, c'est la vedette du Salon international de la femme noire. Donc, c'est sûr
et c'est surtout qu'on ne peut pas promouvoir dans tous les cas... on ne peut pas nous promouvoir sans que les autres personnes de la société fassent partie de la conversation.
Exactement, c'est important. Et j'ai toujours dit, pour faire avancer la cause des femmes, ça prend l'implication des hommes, la cause des LGBTQ+, maintenant, je ne sais plus, là, ça a changé, là. Mais même là aussi, ça prend l'apport des hétéros. Les musulmans et juifs, ben l'un et l'autre ont besoin, tu sais, la même chose aussi pour les noirs, on a besoin aussi des autres communautés aussi pour parler, on a besoin d'alliés. Puis je pense que c'est comme ça aussi que on avance, sinon on stagne. Et surtout au Québec et puis même au Canada, on peut pas comparer notre marché aux États-Unis. Aux États-Unis, ils peuvent s'autosuffire parce qu'ils sont des millions dans les communautés noires. Mais tandis qu'ici au Québec, on est quoi, peut-être 300 000. Sur ces 300 000, combien se déplacent pour venir au salon? C'est pas encore 10%, c'est même pas encore 10%. Inch'Allah, oui, un jour on va arriver à cela. Mais pour moi, là, c'est important aussi de mentionner qu'on parle de femmes noires. Ça comprend aussi toutes les femmes issues des diversités noires. Donc, communauté LGBTQ+, musulmane, francophone, anglophone, catholique, vaudou. Ah!
Dans toute leur diversité.
Exactement, dans toute leur diversité. Parce que pour moi, ça aussi, c'était quelque chose là, que j'ai imposé dès le début. Je suis d'origine haïtienne qui est au Québec et on sait que la communauté haïtienne est la communauté noire la plus importante ici au Québec. Mais pour moi, c'était important dès le début de refléter la diversité des Noirs et ça a toujours été le cas à l'intérieur d'Audace au Féminin puis on en est très, très, très fiers.
Mmh. Ouais. Tout à l'heure, on parlait justement d'inclure... en fait, on parle d'inclure d'autres personnes, pas que des femmes noires, dans la conversation. Mmh. Et une question que je voulais te poser par rapport à ça, justement, c'est le fait d'inclure des hommes noirs dans la conversation. Mmh. On parle pas mal, depuis quelques années, de misogynie noire, mmh. donc une misogynie, un sexisme tourné vers les femmes noires... dont font preuve aussi les hommes noirs, les mmh. hommes de nos communautés. Mmh. Et je me demandais comment est-ce qu'on fait pour les inclure dans la conversation, comment est-ce qu'on fait pour pas tant changer leur mentalité, mais plutôt faire en sorte qu'ils écoutent et qu'ils comprennent en fait les réalités que les femmes noires vivent. Et... bon, ton point de vue, en fait, m'intéresse d'autant plus que toi, tu as un fils
oui.
qui est adolescent.
Oui.
Donc, je me demandais, voilà, quelles étaient tes réflexions par rapport à ça? Quel est ton point de vue?
Bah, écoutez, encore une fois, on est dans la même démarche. On parle d'inclusion, et ça comprend aussi nos hommes noirs. L'idée du salon, moi, je peux vous dire, ça m'a été fortement... recommandé, encouragé, motivé, poussé par l'homme qui partage ma vie, qui est un homme. Jamais ça a été une problématique pour lui de que je sois à des rencontres, que je termine à 2h du matin. Il m'a toujours soutenue. Donc déjà là, c'était déjà une belle preuve que c'est possible qu'il y ait des hommes noirs qui supportent et qui encouragent les femmes noires qui ont des ambitions. Mm-hmm. Même chose aussi pour mon fils qui a toujours su, qui a toujours été présent à chacune des éditions du Salon international de la femme noire. Il est au courant de cela. Il connaît ma position par rapport aux femmes noires. Et aussi, je lui parle aussi parce que il faut parler avec cette génération-là. On parle de misogynie noire. Et merci beaucoup. Mais aussi, il y a tout aussi les clichés vis-à-vis des femmes noires. Qui existe chez les jeunes aussi, que la femme noire, c'est des angry black woman. Il y a aussi le colorisme qui est également présent dans cette nouvelle génération. Oh, on pensait que c'était quelque chose d'ancien. Non. C'est toujours là, le colorisme. Donc, c'est important pour moi de valoriser la femme noire, faire comprendre à mon fils qu'une femme noire... n'est pas nécessairement une femme claire avec tel type de cheveux et puis des traits phénotypés, non. Donc il y a tout ça que je fais comme travail même avec mon fils et ça je pense qu'il l'a bien assimilé. En tout cas j'ai hâte de voir la femme qui va me présenter demain, mais bref. Mais il comprend ça parce qu'une fois je l'ai surpris parler, jouer à des jeux vidéo avec ses amis donc à distance. Mm-hmm. Et là, ils ont commencé à faire des commentaires sur les femmes noires. Et ses amis ne sont pas noires, disant que elles ont une attitude, les femmes noires. Tout ça. Puis là, mon fils, j'entends dire, hey, les gars, là, respect, OK? On respecte les femmes noires, s'il vous plaît. Puis tout de suite, tout le monde a compris ça, puis on a passé à un autre sujet. Et lui-même, au salon, comme cette année, il est venu avec des gens qui ne sont pas noirs, au salon, avec... et ça, pour moi, ben... Je trouve que c'est déjà quelque chose de beaucoup parce que plus tard, c'est un homme qui va comprendre, respecter la femme noire mm-hmm. et défendre la femme noire et la protéger. De toute façon, il me connaît. Hein,
il avait pas vraiment le choix la première année.
Exactement, une calotte derrière la tête. Là. Non. Mais par rapport aux autres hommes, je pense qu'il faut les inviter dans la conversation. Puis aussi, il faut les accompagner. Moi, j'ai déjà eu des événements où... J'ai fait la place à des hommes et où je voulais qu'il y ait comme par exemple une conversation avec d'autres femmes sur la table. Et certains de ces hommes-là prenaient la place. Tu sais, ils prenaient contrôle de la conversation. Et j'ai dû mettre terme des fois à des entretiens parce que j'aurais fait expliquer, c'était pas ça le but. Le but, c'était d'avoir un échange. Maintenant, si c'est difficile, ben, il n'y a pas de problème. Mais sauf que moi, c'est pas sur notre plateforme que je vais te donner cette occasion-là. Donc, je pense aussi que nos hommes noirs aussi doivent en être conscients aussi de la manière qu'ils s'expriment, les mots aussi. Il y a des mots qui sont péjoratifs, femme, bon, je dirais pas toutes les mots en expression créole, mais il y a une façon de parler. On parle aussi de
la masculinité toxique.
Exactement, masculinité toxique, ouais. Alors, puis, pas parce que tu vas soi-disant supporter les femmes noires puis tu les maltraites en coulisses, ou t'as une façon de parler avec elles. Donc, je pense que... Moi, j'ai toujours remarqué, les hommes savent avec qui discuter. Des fois, ils franchissent la ligne avec certaines femmes. Puis je pense que nous, les femmes, on a aussi ça comme travail. Faut mettre une ligne. Moi, il y a des conversations. Moi, déjà, là, quand j'étais au collège, la façon que les gars parlaient des femmes, moi, je leur disais tout de suite, là, non, ça passe pas avec moi. Puis ils voyaient que moi, je ne tolérais pas ça. Même entre nous, femmes, tu sais, on parle, par exemple, je peux amener la conversation très loin, le mot nègre. C'est toujours une question, un débat, mais...
Mais ça devrait pas. Moi, par exemple, j'utilise pas ce terme. Parce que c'est une insulte, c'est dégradant, et que je pense, en tout cas, c'est mon avis personnel, que même les Noirs ne devraient pas l'utiliser.
Mais pourtant, on l'utilise. Et même dans la langue créole, c'est normal. Nègre, c'est un homme, ça veut dire homme simplement en créole.
Ouais, ouais.
Mais même les jeunes, ils l'utilisent aujourd'hui, chez les gars. Mais... Et nous, les femmes, bitch, oh salope, c'est quoi ça? Moi, ça m'horripile. Mais elles acceptent ça. Donc, le gars qui entend ces conversations-là, bien, juste à la blague, il va traiter une fille de salope. Et la fille rigole. Non!
C'est exactement ce dont on parlait au début, c'est qu'on utilise un certain langage, certaines expressions, certaines blagues qui vont pouvoir être utilisées entre nous, entre femmes, entre femmes ou entre femmes noires, qui ne pourront pas être utilisées par d'autres. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on se censure, entre guillemets, nous-mêmes pour éviter que d'autres personnes l'utilisent, ou est-ce que on fait le choix de compartimenter? Et c'est vraiment intéressant parce que tu mets beaucoup l'emphase, je sais pas si tu t'en rends compte, sur le langage, en fait. Qu'en fait, on déconstruit les mentalités, ça passe beaucoup par les mots, par les paroles qu'on emploie.
Écoute, la puissance des mots, c'est pas une blague. C'est pas question de positivité. Je fais attention aux mots. Donc, encore plus des mots aussi qui peuvent dénigrer les Noirs, je vais faire attention à cela. De la même manière que pour moi, il y a certains mots que je n'accepte pas. Dire que c'est pas possible, on n'est pas capable. Non, non. Il y a toujours une solution pour tout. Mais, oui, si on veut commencer par la déconstruction, mais je pense que ça commence par le langage. Par ces langages-là qui sont incrustés dans notre cerveau, dans notre cognitif. Donc, ces schémas-là à déconstruire commencent par nos pensées, par notre façon de s'exprimer. Donc, et c'est un travail qui se fait à long terme, parce que comme je le disais au début, ben peut-être la Dorothy d'aujourd'hui ferait peut-être pas les mêmes textes qu'il y a d'humour il y a quelques années. Parce que maintenant, j'ai une conscience, ma perception a changé. Et je suis très sensible par rapport à ça. Et je suis consciente aussi que ça peut donner cette autorité, en fait pas autorité, mais autorisation à la personne étrangère d'utiliser ces mots-là qui me dérangent, qui me font mal. Donc non, ça commence. Puis je dis toujours, ça commence à la maison. Commence à la maison. Comment je m'exprime avec mon fils, il sait comment je parle des femmes, comment on doit parler aux femmes. ça commence à la maison. Et puis c'est sûr que bon, on peut aller plus loin après ça. Il y a tout ce qu'on consomme. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est difficile. C'était déjà le cas quand on était jeune. On parlait déjà du hip-hop, de ci, de ça, la culture. Mais aujourd'hui, c'est encore... Ça a pris une autre proportion avec les réseaux sociaux. Puis c'est valorisé. Mmh. Donc, non, je pense que si on donne la bonne base, puis je pense que, bon, on rentre dans cette ligne. En tout cas, moi, à l'aube de mes 50 ans, je pense que j'ai ce devoir-là de m'assurer qu'il y a encore cette éthique auprès de nous, les Noirs, et puis de veiller à ce qu'on se valorise. Ouais.
J'ai l'impression que notre créativité est biaisée, que nous, en tant que personnes minorisées, donc en tant que personnes qui ne sont pas la race, entre guillemets, dominante, on ne peut pas penser notre créativité sans l'associer à notre identité de femme noire ou de femme asiatique.
Exemple.
Le podcast.
Oui.
C'est un podcast où moi je pars à la rencontre de femmes qui sont racisées. Mm-hmm. Et c'était le but dès le départ, c'est de pouvoir faire entendre des voix que j'entends pas dans les médias mainstream, mm-hmm. Des femmes entrepreneurs, des femmes artistes, mais qui vivent mes réalités. Mm-hmm. Et j'en ai créé un média audio. Pareil pour le Salon International de la Femme Noire. Mm-hmm. C'est quelque chose que tu as créé, mais qui s'inscrit dans une revendication qui est plus grande que toi et qui est liée à ton identité de femme noire, tu vois. Et donc, ce que je me demande, c'est est-ce que tu penses qu'on peut créer, on peut avoir ce privilège-là de créer sans y mettre notre identité de femme noire, tu vois, sans que ce soit une revendication. Est-ce qu'on peut créer sans que ce soit politique? En vrai, c'est ça ma question.
En fait, je vois deux... Oui, c'est vrai, c'est ta question, mais je pense à l'autre question. Est-ce que c'est possible de créer sans y mettre notre identité de femme noire? Je pense que c'est deux questions différentes parce que dans ces questions... En fait, tout dépend de l'environnement dans lequel on se retrouve. Je crois que peut-être une femme qui est au Sénégal, par exemple, on va pas nécessairement revendiquer ou bien chercher à y mettre dans sa création ou dans son projet une touche ou une identité de femme noire parce qu'elle n'est pas confrontée de la même manière. Elle va peut-être être confrontée sur le colorisme, sur le blanchiment de la peau, tout ça, sur la beauté, les standards de beauté. Mais en tant que ce que nous vivons ici, parce qu'on l'a vu, même notre très chère, comment elle s'appelle encore, Amamanda, la Nigérienne, la féministe.
Ah, Chimamanda Ngozi Adichie.
Exactement. Ça, c'est moi, je suis la reine des lapsus. Alors, mais elle-même aussi, elle a dit, j'ai perdu un peu mon filon là. Ah oui, c'est quand elle a quitté le Nigeria qu'elle a vu qu'elle était... C'est là qu'elle a réalisé qu'elle était noire. Mm. Ça a été le cas de beaucoup d'Africaines. Mais nous, c'est parce qu'à quelque part, notre création est façonnée par notre environnement auquel nous sommes confrontés, un peu comme la nature. La nature, une pierre va se forger ou bien va prendre forme selon les changements climatiques, la température, l'environnement où il se retrouve, donc l'usure, l'érosion du sol, tout ça forme cette pierre là ou bien forme cet arbre ou bien ce tronc là qui a été délaissé. Mais nous aussi, on est façonnés par notre environnement. Donc je pense que au contraire, pour moi, ce qui est important, c'est faire place à la créativité, parce que je ne crois pas qu'on l'utilise assez. Les gens ont souvent tendance à voir la créativité comme quelque chose de très artistique. Et pourtant, c'est quelque chose qui devrait même être enseigné à l'école, laisser place à la créativité, laisser place à l'imagination, d'essayer, comme je le dis souvent, think outside of the box. Ça fait partie des valeurs d'Audace au Féminin. Si je peux vous nommer les valeurs, c'est excellence, gaieté, créativité, solution. Quand j'ai lancé l'idée du salon, je me disais, ce sera le C2 Montréal noir. Mais maintenant, j'ai changé. C'est pas le C2 Montréal noir, mais c'est plutôt le Salon international de la femme noire. Et entre vous puis moi, j'ai l'impression que C2 Montréal s'inspire du Salon international de la femme noire. Hein? Cette année, ils reçoivent Naomi.
C'est deux pour les personnes qui, qui nous écoutent et qui sont outre-Atlantique.
Oui.
C'est donc une sorte de réunion, de forum.
De conférence.
De conférence, de panel sur l'entrepreneuriat.
Sur l'entrepreneuriat, mais surtout, affaires. Ouais, c'est un réseau d'affaires puis qui pousse des limites. Et eux autres, justement, parmi les fondateurs de C2 Montréal, on a des gens du Cirque du Soleil. Donc, c'est comment revoir les conférences, comment y mettre de la créativité. Donc moi, quand j'assiste à ces événements-là, je vais pas répliquer, je vais m'en inspirer. Mm-hmm. Et suite à cela, ben, comment je peux y ajouter la sauce Audace au Féminin. Donc, non, moi, je trouve que la créativité, elle est importante. On n'en parle pas assez. On n'y accorde pas autant d'importance dans les communautés noires, on le voit, oui, sous une forme artistique quelconque, là, mais dans le day-to-day, je pense pas qu'on l'utilise. Puis, étant donné que je suis confrontée à toujours me rappeler que je suis une femme noire, que mon corps dérange, que mon corps... donc, oui, dans tout ce que je veux faire, on va le ressentir. C'est impossible pour moi d'assister à un événement et de pas avoir mes lunettes Audace au Féminin puis dire, ah, comment se fait-il que la représentation n'est pas là? Ah, on oublie cet angle-là, on oublie l'intersectionnalité dans certaines conversations. Donc, ouais, c'est pas mal ça.
Est-ce que tu as une recommandation de livre pour moi?
Waouh. Écoute, est-ce qu'il faut que ça soit d'un auteur noir?
Non, peu importe.
OK. Moi, un livre que j'ai beaucoup aimé, il y en a deux qui ont été quand même des livres qui m'ont marqué, qui m'ont poussé à l'action. Alors le premier, c'est de Suzanne Jeffers. C'est trembler mais oser. Donc, qui parle de la peur, comment utiliser la peur pour être une forme de motivation, les effets aussi pervers de la peur, que ça peut nous paralyser et nous empêcher de s'émanciper ou de connaître peut-être des opportunités que si on n'avait pas franchi la peur, ben on ne saurait jamais. Donc ça, c'est un livre. Et en fait, il y en a même trois. Il y a aussi le livre de David Schwartz, La magie de voir grand. Ah, ça a été mon livre de chevet pendant quelques années. Donc moi, je suis vraiment une think big, expect big. C'est vraiment moi. Et l'autre, c'était le premier, c'est le livre de Tananarive Due, une auteure afro-américaine. Le titre, c'est Rose Noire, mais c'est un roman biographique un peu fictif de Madame C.G. Walker. Donc, moi, Madame C.G. Walker, ça a été une femme très inspirante. Et son parcours, j'ai beaucoup adoré, en fait. Une femme qui a eu des parents esclaves, qui était sur un... que son mari a été tué, son premier mari lynché, et puis bon, voilà ce qu'elle est devenue, première femme, première millionnaire, point final, femme, noire en plus, dans les produits capillaires. Mais aussi, ça c'est une chose, mais aussi ce qu'elle a vécu en tant que femme. C'est-à-dire, c'est une femme qui, malgré le succès, malgré l'argent, ben c'est une femme qui a vécu l'infidélité.
Oui, c'est ça. Elle cherchait l'amour.
Exactement. Puis moi, ça m'a beaucoup affectée parce que C'est quelque chose aussi qu'on voit dans nos communautés noires. Faut pas oublier que les noirs, dans les communautés noires, le taux de monoparentalité est le plus élevé.
Ici au Québec?
Ouais, ou... okay. Ouais, au niveau des statistiques. Et je suis entourée de femmes extraordinaires, mais elles sont célibataires. Et moi, ça m'a toujours intriguée, ça. Pourquoi elles sont célibataires? C'est pourquoi?
Mais peut-être qu'il y en a qui ne veulent aussi, tout simplement.
La plupart cherchent quelqu'un, ça, je peux te le dire.
Ah, hein?
Beaucoup cherchent. Mais je pense qu'il y a une étude sociologique aussi à faire sur ça. Parce que je le constate aussi, les femmes noires n'ont pas le même niveau de succès que les autres femmes. En fait, on le voit déjà dans les plateformes de recherche, là, comment on appelle
oui,
ça?
Oui, les applications de rencontres.
Dating, ouais, exactement.
Souvent, oui, il y a une étude qui a été menée, je sais plus si c'est par Tinder, mm-hmm. où les femmes noires sont la catégorie de femmes les moins désirables, et du côté des hommes, c'est les hommes asiatiques qui sont considérés comme les moins désirables.
Ouais. Tu vois, et on le voit aussi, combien de femmes aussi, des vedettes afro-américaines, elles ont tout, mais elles sont célibataires, elles sont encore seules. Et moi, ça m'affectait parce que à l'époque, quand j'étais célibataire, j'écoutais aussi beaucoup de jazz. Et je me dis, mais j'écoute toutes ces femmes-là, Ella Fitzgerald, Nina Simone, toutes des femmes qui sont peinées de l'amour, tristes. Et je vais arrêter d'écouter ça parce que je veux pas devenir comme ces femmes. Et mine de rien, ben j'ai trouvé l'amour. J'ai trouvé l'amour depuis, maintenant je suis en relation depuis 8 ans, mais quand même, je trouve que il y a une étude sociologique aussi à faire avec nous, avec les femmes noires.
Est-ce que c'est... Ça me donne une idée de
ouais,
sujet, là.
Ben, écoute,
documentaire.
Tu me laisseras savoir, ma chère.
Ouais.
Je serais très curieuse de lire ça, là.
Moi aussi, je suis très curieuse de savoir comment je vais faire ça, parce qu'à chaque fois, je me lance des défis comme ça, et après, je le regrette, parce que je passe des nuits blanches sur les projets, mais... Mais oui, c'est vrai que ça pourrait être vraiment très intéressant.
Ouais, ça tente, on pourrait travailler sur ça, là. Mais nos hommes noirs qui épousent et qui sont souvent avec des femmes claires. Et quand tu regardes toutes ces vedettes afro-américaines, là, même ceux qui divorcent, là, première femme était noire comme toi et moi, et puis après ça, l'autre, là, wouh!
Ouais, mais ça, c'est difficilement... C'est difficile de faire une recherche là-dessus parce qu'il faudrait demander à chaque homme quelle était son intention.
Non, mais c'est sûr que les hommes, ils vont toujours cacher, mais on va trouver des hommes qui vont être capables de dire, à la limite, on fait comme les histoires de documentaires de films, là, on les cache, ils vont pouvoir s'exprimer. Ah, ben, moi,
on change leur voix.
Exactement, j'ai toujours aimé les femmes plus claires.
Mais c'est ça, c'est parce que aussi on pourrait dire que c'est juste une question de goût, mais après, il y a tout un biais qui rentre là-dedans. Mais oui, c'est vrai, c'est sûr. Mais moi, par exemple, tu vois, j'ai toujours été attirée d'abord par des hommes au teint clair aussi.
Ah oui,
moi, quand j'avais 14 ans...
Oh, mais raconte.
De toute façon, c'est trop long. Mais moi, par exemple, quand j'avais 14 ans, que j'étais au collège, mon idéal de beauté, c'était Chris Brown. Tu sais, le chanteur.
Oui.
Voilà, pour moi. Et d'ailleurs...
Jusqu'à ce qu'il frappe ça à Rihanna,
ça
tout a changé.
C'est clair. Et mon idéal de beauté à moi aussi, parce que j'ai dû me déconstruire ça, c'était être un teint clair, yeux verts, cheveux, tu sais, 3C. Et quand j'écrivais, et tu sais, j'écrivais beaucoup d'histoires, enfin, j'aimais bien ça, et ben, l'héroïne des romans que j'écrivais, c'était une fille au teint clair ou métisse avec des yeux verts, avec des cheveux frisés, qui allait sortir avec un garçon qui était soit blanc, soit au teint clair, tu vois.
Wow.
Et j'imaginais pas, mais du tout, sortir avec un homme noir, alors que mon père, que j'adore, est noir. Noir, voilà quoi. Genre,
noir et belle.
Ouais, on sait d'où je viens. Genre, les deux sont noirs, tu vois. Et il y a eu beaucoup de choses à déconstruire de mon côté. Moi, mes cheveux avaient toujours été défrisés. Par je ne sais quel hasard, je suis en couple avec un homme marocain.
Waouh!
Ouais. Et c'est lui qui m'a dit, tu sais, montre ta vraie nature de cheveux, tu vois, tu devrais essayer.
Mais c'est tout un homme, ça! Non, mais c'est intéressant. Tandis que moi, c'était le contraire. Moi, je me bronzais pour être plus noire.
Ah ouais?
Oui.
Ok.
Ah non, moi, j'ai mis de la vaseline sur le corps. Je me rappelle, j'étais en Martinique, là, c'est là que j'ai eu mon premier coup de soleil.
C'est super dangereux, ça. C'est du pétrole sur les...
Je sais. Après ça, j'ai changé, j'ai mis de l'huile d'argan. Et puis, mais c'était toujours... Ma mère comprenait pas. Et je venais vraiment là aussi noire que cette chaise. Et même moi, quand je me regardais dans le miroir, j'avais l'impression d'être une autre personne. Mes lèvres étaient violettes. Ah, ben, j'aimais ça. J'arrivais, je mettais une robe plus claire. Je me rappelle justement, une fois, on m'a arrêté pour me dire, ah, vous savez, vous avez un beau teint. Merci. Mais c'était un bronzage. Ouais. Mais moi, c'était le contraire. Et même, je visualisais... Parce que j'oublierai jamais cette petite fille-là que j'avais vue là, naître, une petite fille. C'était pour moi une poupée, mais elle était d'un teint foncé, mais d'une beauté. Et donc, moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un enfant très, très noir. Toujours, toujours. Bon, c'est pas ça que ça a donné, mais quand même.
Ah ouais, il est comment,
ton fils? Il a le même teint que moi, mais bon, okay. Quand un enfant vient au monde, ça dépend. Moi, j'étais pas comme ça, mais lui est venu au monde clair. Et donc, c'était pas comme dans mes rêves. Dans mes rêves, moi, je voyais toujours un bébé très noir. Tu sais, mais moi, j'ai toujours aimé cette beauté, cette... Pour moi, c'est la négritude dans son extase, là. C'est fou. Je trouve ça tellement sexy.
Ah, mais c'est incroyable que t'aies ce...
Ouais, non,
que t'aies ce critère de beauté-là. Hein.
Ah, oui,
franchement,
oui.
je l'entends pas souvent.
Et même, ça m'est arrivé de voir des femmes qui avaient la peau naturellement foncé, très foncé noir. Et quand je les arrêtais pour leur dire comment elles sont belles, elles étaient toujours étonnées.
Elles, même, elles étaient surprises.
Parce que pour moi, c'est ce que je rêve. Moi, j'aimerais savoir ton teint.
Mais on a le même teint, là.
Oui, non, mais je veux dire, quand je parle des femmes okay. plus foncées encore, je trouve qu'elles ont une peau fine. En tout cas, bref, tout est dans la manière, la perception qu'on a, mais je trouve ça intéressant que tous les deux, on a deux clashs complètement.
Ouais.
Différent, là. Non, moi... Ah non, moi, un homme, plus il est noir, plus il est bon.
Ok, bon, il me reste deux dernières questions pour toi. De quoi est-ce que tu seras nostalgique d'ici quelques années?
De quoi je serai nostalgique? De quoi donc? Écoute, c'est difficile parce que de nature, je suis pas une fille qui regrette ou qui aime regretter ou nostalgique. Non. Actuellement, quand je regarde, je suis nostalgique peut-être des émissions d'enfants que je regardais, puis que je trouve que la télévision a changé aujourd'hui. Je trouve qu'on est rendu dans un monde rapide où tout doit se faire automatiquement. On doit être riche en claquant des doigts. On doit être Instagram, chaque chose, faut faire une photo. Au contraire, je pense qu'on ne vit pas assez le moment présent. Donc, j'ai pas le temps vraiment de rester coincé en arrière. Non, moi, je veux au contraire, quand j'aurai 103 ans, voir, on m'amène à quelque part pour dire que telle rue porte mon prénom, telle école porte mon nom. Moi, c'est à ça que je vois. C'est les réalisations, mais de dire à quoi je vais être nostalgique, non.
Ouais, donc tu seras nostalgique de rien.
En tout cas, je te dirai peut-être dans quelques années, mais okay. Comme je te dis présentement, c'est des dessins animés.
Moi aussi.
C'est tout, là, j'essaie de voir. Non, c'est vraiment ça, là.
Le podcast s'appelle La Zone, en référence à la sortie de sa zone de confort et à l'entrée dans sa zone de génie. Qu'est-ce que tu as laissé, toi, Dorothy, dans ta zone de confort et qu'as-tu trouvé dans ta zone de génie?
Mais d'où tu sors avec ces questions-là? Tu es là pour me tuer? Oh! Ciao! Alors, répète, qu'est-ce que j'ai laissé dans ma zone de confort? Et
qu'est-ce que tu as trouvé dans ta zone de génie?
Même ma zone de génie, est-ce que je suis dans ma zone de génie?
Ben, c'est pour ça que je pose la question.
Écoute, dans ma zone de confort, ce que j'ai laissé, c'est le confort. Je pense que, je le dis tout le temps, j'ai le don de me mettre dans des situations, puis après ça, je me dis, pourquoi j'ai été me fourrer là-dedans? Mais je pense que je suis comme ça. J'aime être dans une zone inconfortable. Puis je pense que c'est là le problème. C'est qu'on tombe et qu'on reste dans une zone de confort, on stagne. On veut pas avancer, on ne va pas évoluer, on va pas innover. Mais je pense que c'est ça mon c'est que moi je suis constamment à la recherche de défis, de challenges. Autant j'ai besoin de me reposer, mais autant c'est plate d'être au repos tout le temps là, tu vois. Donc en tout cas, je pense que ça c'est pour moi. Puis dans ma zone de génie, écoute, ce que je peux te dire, c'est que je m'étonne souvent. Il y a des choses que je ne me croyais pas apte de faire, puis que, oh, finalement, j'ai appris à le faire, puis je me dis, c'est pas si pire. Mais je pense que, pour moi, j'ai pas encore arrivé à cette zone de génie, selon moi. Parce que c'est une zone de génie, pour moi, c'est vraiment aussi... C'est là aussi que tu touches quasiment là, tu frôles la folie. Tu sais, c'est comme... selon moi, là, tu vois, donc...
Non, mais je pensais pas à génie, par exemple, comme Einstein, mais plus le génie comme l'a défini Shelby, Jean-Baptiste, que j'avais reçu dans la saison 1. Elle disait que c'était la zone où t'es sur ton X.
C'est quoi ton X?
Ton X, c'est vraiment quand là où... cet espace où vraiment se rencontre ta passion, ton talent, ta vocation.
Ah.
C'est ça la zone de génie.
Ah bah écoute, la beauté. La beauté, écoute, ça paraît pas, mais moi, peut-être il y en a qui le savent, mais moi je suis une fan de manga. Surtout Naruto Shippuden. Et quand ils sont son chakra, d'ailleurs on peut voir mon porte-clés. Son chakra qui est le Ninetales, il devient puissant, imbattable. Il a des techniques de combat là qui développent. Mais moi, c'est justement ça, c'est j'arrive des fois à ce niveau-là là de et on dirait que je sors de mon corps puis je m'analyse, je suis comme waouh, c'est toi Dorothy. C'est toi qui a pensé à ça, qui a réuni ce monde-là, qui... Mais c'est tellement extraordinaire que, pour moi, ce que j'ai toujours fait, même quand je faisais de l'humour, quand je vivais des moments extraordinaires, je m'assurais le lendemain de faire quelque chose de plus ordinaire possible. C'est-à-dire, s'il faut récurer la salle de bain, je vais le faire. Aller jouer avec mon fils, je vais le faire. Tu sais, des choses très banales, faire la vaisselle, je vais le faire le lendemain, rapidement. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est important de garder les pieds sur terre. La même manière que c'est facile de grimper dans le succès, mais la chute peut être fatale aussi. Mais moi, je veux vivre le moment présent, puis je suis tellement, dirais, dans... En fait, c'est ça le mot hein, que je cherchais. Pas nécessairement la beauté, mais on dirait que je vis tellement un moment de grâce que je suis en mode reconnaissance, que si je peux redistribuer cette lumière-là à quelqu'un d'autre, ce succès, le faire vivre aussi à quelqu'un d'autre, je vais le faire avec beaucoup d'amour, beaucoup d'abnégation, parce que je suis tellement dans ce moment de grâce, de reconnaissance... où je me dis, ah, il est fort Dieu, hein? Donc, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, mais moi, je ne pratique pas. Comme je dis, je ne vais pas à l'église, tout ça, je ne m'associe pas à une religion quelconque, mais oui, je suis croyante, je crois en Dieu, et puis, et je pense que si justement qu'on parlait de cette idée du salon qui était là enfouie en moi, mais si cette idée-là est en moi, puis je réussis des fois, comme je disais, avec la foi, à réaliser certaines choses. Mais je pense que, à quelque part, peut-être je suis un véhicule, un messager, ou j'ai une mission sur Terre que je dois accomplir. Et puis, et c'est important pour moi de ne pas m'approprier tout ce qui vient avec, mais de le partager, parce que sans mon équipe, sans les filles autour de moi, sans le public, sans les gens qui viennent, sans nos partenaires, sans nos alliés, sans tout le monde, mais rien n'aurait été possible. Donc, puis je pense que le plus beau véhicule ou bien la plus belle chose qui me motive, moi, c'est... Ça se résume à l'amour. Mm. J'aime réellement les gens. J'aime réellement les gens. Donc, je le fais par amour. Je me lève tôt le matin par amour. Je suis une fille passionnée, puis j'aime les gens. Et si ça peut avoir une différence dans la vie de quelqu'un, tant mieux.
Merci beaucoup, Dorothy.
Merci à toi, Emmanuel.
Merci à mon invité d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci à vous pour votre écoute. Retrouvez toutes les références de notre discussion en barre de description. Si vous aimez le podcast, partagez-le et parlez-en autour de vous, à votre famille, à vos amis et même à votre voisine un peu chelou. On peut aussi s'en parler par mail ou sur Instagram à La Zone Podcast. Prenez soin de vous et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode.